Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et bonjour à toutes et à tous, nouvelle édition de l'heure du crime. Et alors là, hein, quelquefois on se demande si l'histoire que nous racontons sont bien dans le concept, si j'ose dire, de l'émission. Là, il n'y a pas photo. Crime et procès sensationnel à Los Angeles, 1922-1962, Au-delà du Dahlia Noir. C'est un livre qui est paru la semaine dernière aux éditions Edith, voilà, il y a un jeu de mots, qui est signé Nausicaa Zabalos, et je me suis empressé d'inviter l'auteur pour parler des pires crimes, je crois, des annales américaines. Bonjour Nausicaa Zabalos.
Bonjour Jacques Pradel.
Je vous présente l'équipe de l'émission, ils sont tous très pacifiques, hein, Perrine Suquet, voilà, Serge Mariani à côté de vous qui réalise, Marc Bisset aux manettes, Kevin Collin qui n'a pas eu trop de travail là aujourd'hui parce que les histoires dont vous parlez sont quasiment inconnues en France, donc on n'a pas trouvé dans les archives sonores d'RTL traces de ces affaires. Et puis un merci aussi au passage à Justine Vigneault qui est avec nous depuis un certain nombre de semaines et qui elle fait des études de criminologie et qui m'aide aussi comme Perrine Suquet à préparer un certain nombre de ces émissions et spécialement celle-ci. Près de moi c'est Caroline, Caroline Alexis, extrêmement pacifique également.
Oh oui tout à fait, bonjour Jacques.
Bonjour.
Vous allez nous raconter des histoires qui vont nous laisser sans voix.
Oui, quand vous vous servez d'un marteau, vous, c'est pour planter un clou.
Oui, c'est pour me faire mal aux doigts. Hein,
d'accord.
On va parler
de femmes criminelles, malheureusement, et notamment de la tueuse au marteau dans un instant. Mais vous disiez là.
Oui, vos histoires vont nous laisser sans voix, mais malgré tout, pour les auditeurs qui éventuellement auraient encore un petit filet de voix, un petit peu de souffle, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions à l'invité au 3210 ou rtl.fr à la page de l'heure du crime. Vous cliquez sur participer.
Voilà. Vos questions, vos réactions, vos témoignages, profitez-en. Il faut quand même dire une chose, et je pense que Nausicaa Zabalos ne va pas me contredire, ni vous ni nous n'avons de complaisance morbide pour le sang, pour la perversité criminelle. On raconte pas des histoires pour le plaisir de raconter les histoires les plus gore possibles, parce que en fait, pourquoi on les raconte c'est parce que on est sûr que dans le décryptage de ces affaires criminelles, toutes ces affaires ont quelque chose à nous dire sur l'époque où elles se sont déroulées, sur les valeurs de la société, sur les tabous, sur les débats également du monde judiciaire, policier, voire psychiatrique, hein, puisque les experts psychiatres sont de plus en plus sollicités. Pourquoi et comment avez-vous décidé de réunir dans ce livre, je ne sais pas, je n'ai pas compté le nombre d'histoires, mais enfin plus d'une dizaine d'histoires épouvantables?
Bah, au départ, c'était un peu par hasard parce que bon, moi, je faisais des recherches en histoire de la médecine sur un hôpital psychiatrique, donc le Camarillo Mental State Hospital, qui était un hôpital assez célèbre puisqu'il était situé près des studios d'Hollywood. Mmh. Et je me suis rendu compte, en cherchant les archives de cet hôpital, également en consultant la presse de l'époque, qu'il y avait, en plus des célébrités qui avaient pu être internées comme Charlie Parker, l'auteur de romans policiers Craig Rice ou la mère de Marilyn Monroe, qui avaient aussi des criminels qui avaient fait un séjour dans cet hôpital. Et je me suis posé des questions parce que y avait le débat sur la folie à l'époque, bon, qui est toujours actuel aujourd'hui.
Ouais. Et est-ce qu'on doit condamner un fou?
Voilà, exactement.
Ouais. Et donc vous êtes dit, bon, donc du coup, par curiosité, vous avez voulu connaître un peu les histoires qui avaient défrayé la chronique criminelle, en fait, à Los Angeles, mais sur une période très longue. Hein.
Oui, sur une période assez longue, parce que plus j'avançais dans mes recherches et plus je tombais sur des histoires qui me semblaient vraiment intéressantes et dont on n'avait pratiquement jamais entendu parler. Alors c'est pour ça que j'avais décidé de donner un sous-titre au livre, Au-delà du Dahlia Noir, parce qu'on connaît bien l'affaire du Dahlia Noir. Oui. Mais là, il me semble qu'il y a quand même des histoires qui méritaient d'être mises au goût du jour.
Oui, qui sont aussi épouvantables et pour certaines d'ailleurs toujours non élucidées. On peut rappeler quand même, parce qu'on dit ça souvent, ah oui, mais tout le monde connaît le Dahlia Noir. Pas toujours, c'est une starlette. On l'appelait le Dahlia Noir parce qu'elle s'habillait toujours en noir. Et puis elle a eu un destin épouvantable. Elle est tombée dans les griffes vraisemblablement d'un tueur en série, parce qu'on soupçonne son assassin de ne pas en avoir été à son coup d'essai. Ça s'est passé à quelle époque? C'est tout de suite après ou tout de suite avant la guerre? Tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale, je crois. Il faudrait vérifier. J'avoue que j'ai un trou là, au moment où je vous pose la question. Mais en tout cas, oui, je pense que c'est tout de suite, c'est dans les années 44,
dans les années 40,
quelque
oui.
chose comme ça. Alors, il y a plein de bouquins qui sont parus là-dessus, des films, bien sûr, et encore un d'ailleurs, je crois, assez récemment. Alors, dans les histoires que vous racontez, il y a aussi d'ailleurs des criminels, des imitateurs, des gens qui s'imitent les uns les autres. Des épidémies d'enlèvement et de meurtre d'enfants, par exemple.
Oui, oui. Ben, y a des imitateurs. Donc, dans l'histoire, justement, du renard, Fox, donc, c'était un criminel qui se faisait appeler le renard, qui a envoyé plusieurs télégrammes et lettres de rançon et qui a enlevé une jeune fille et il l'a atrocement mutilée et il l'a tuée. Mmh. Et donc, ce qu'on voit au niveau de cette affaire-là, c'est que peu après donc, l'inculpation du renard, on a différentes demandes de rançon.
Oui, une sorte d'épidémie qui se répand aux États-Unis.
Oui, hein, oui.
Et puis il y aura par exemple l'enlèvement et le meurtre de l'enfant Lindbergh, hein, qui est peut-être le plus connu. C'est 15 janvier 1947. Connu. Merci, c'est Perrine Suquet qui me passe un petit papier. Le corps d'Elizabeth Short a été retrouvé dans un terrain vague donc, de Los Angeles, hein, le 15 janvier 1947.
Et justement, là, on peut également faire une petite comparaison avec deux cas qui sont cités dans mon livre. Mmh. Le corps donc, de Marion Parker, la petite fille qui est atrocement mutilée par Hickman, et également le crime de la tueuse au marteau.
Dont on va parler dans quelques instants après une première pause. On n'a pas dit une chose, et je l'avais dit, mais il faut le répéter là. Ce qui relie le point commun entre ces épouvantables criminels dont on va parler aujourd'hui, c'est qu'on leur donnerait
le bon Dieu sans confession.
Voilà, oui. L'expression est de vous, je vous la rends. Et ça va être dur quand même d'y croire. Mais bon, on vous raconte les histoires dans un tout petit instant.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Eh oui, sur cette terre, ma seule joie, mon seul bonheur, c'est mon homme, je l'ai tellement dans la peau que j'en suis marteau. C'était les chansons popularisées par Miss Tinguette. Alors, pourquoi on passe cet extrait, d'ailleurs, d'une comédie musicale américaine qui date de 1921, le spectacle des Ziegfeld Follies? C'est parce que ça ne fait pas référence, Nausicaa Zabalos, à l'histoire qu'on va raconter, mais ça aurait pu être la chanson fétiche de celle qu'on a appelée la tigresse au marteau, Clara Phillips, qui va faire une chose absolument extraordinaire. Il faut nous raconter un petit peu. Elle est fascinée par Hollywood, elle est fascinée par le spectacle, par la danse, etc. Mais elle va finir par abandonner tout ça pour l'amour d'un homme dont le prénom d'ailleurs est, je crois,
Amour
Phillips.
Amour Phillips.
C'est extraordinaire. Et alors, je vais vous laisser raconter l'histoire après, mais on met le curseur au 12 juillet 1922. Elle aurait pu mettre ce disque, d'ailleurs, sur le gramophone. 12 juillet 1922, il rentre chez lui, Amour Phillips, et sa femme, Clara, lui annonce que ce soir, il va avoir le plus beau dîner de sa vie, avec une surprise au dessert.
Oui. Eh bien oui, Amour Phillips donc retrouve Clara tranquillement chez lui. Elle lui a préparé un très bon repas et elle lui fait cette déclaration. Et au dessert, en fait, c'est le corps de sa maîtresse qui a été tué par Clara.
Enfin, c'est l'annonce.
Elle c'est lui l'annonce,
dit, j'ai,
oui,
j'ai
elle...
tué ta maîtresse.
Voilà,
une veuve, une riche veuve.
Oui.
Lui, c'est un milliardaire.
Alors lui, c'est un négociant pétrolier, mais qui là connaît justement des problèmes de dette et qui s'intéressait donc à cette femme, qui était devenue sa maîtresse, parce qu'elle travaillait également dans une banque.
D'accord.
Donc on peut dire qu'Amour était peut-être aussi un peu intéressé par...
Alors, il paraît que Clara Phillips était une très très belle femme, mais son mari était un coureur invétéré.
Oui, c'était un coureur invétéré. Et justement, elle en avait un peu assez puisqu'elle l'avait épousé assez jeune, à 14 ans. Mmh. Elle avait renoncé à ses rêves de gloire. Et pourtant, elle avait peut-être une carrière devant elle puisqu'elle avait été top modèle, employée par quelques compagnies à Hollywood.
Ouais. Alors, elle lui dit, avoue, tu couchais avec elle. Elle dit non, pas du tout. Évidemment, il nie.
N'avouait
jamais. C'est bien connu. Sauf qu'il va il va finir par devenir son complice, en quelque sorte, au début de l'histoire. Objectif, parce qu'il va aider à nettoyer des taches de sang. C'est lui qui va aller abandonner la voiture, je ne sais pas, à 30 km de Los Angeles.
Oui, et c'est lui aussi qui va la cacher dans un des hôtels où il recevait ses maîtresses, donc c'est un peu le comble de l'ironie.
Voilà, pour passer la nuit, puis après il la met dans un train et il lui dit, tu vas à Mexico City te faire oublier.
Voilà, tu passes la frontière, mais malheureusement, elle est arrêtée à Tucson, mais il faut savoir aussi pourquoi elle est arrêtée.
Alors expliquez-nous. D'abord, il faut peut-être expliquer le meurtre.
Oui, il faut expliquer le meurtre.
Il y a eu un autre témoin.
Oui, il y a eu un autre témoin, et c'est un meurtre qui a été surnommé le Stone Age Murder, donc le meurtre de l'âge de pierre, parce que Clara Phillips, elle a tué donc Alberta Meadows, sa rivale, avec un marteau. Elle est venue attendre donc Alberta à la sortie de son travail avec une amie, Peggy Caffey, qu'elle a entraînée dans cette histoire.
Ouais, elles avaient passé quelques heures dans les speakeasy, parce qu'on est aussi à la période de la Prohibition.
Oui.
Elles avaient un peu de vent dans les voiles.
Ça leur a
donné du
éméchées.
Courage, peut-être.
Elles étaient bien éméchées.
Ouais.
Elles partent en voiture, et puis Clara, donc c'est Alberta qui conduit, demande à Alberta de s'arrêter en haut d'une colline, et à ce moment-là, elle l'accuse de lui avoir volé son mari, et elle se jette sur elle et elle lui donne des coups de marteau.
Voilà, devant évidemment les yeux ébahis de sa copine, qui n'a pas l'air très futée. Hein. Il y a
des photos
que vous avez publiées dans le. Bon, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, la copine ?
La copine, c'est une ancienne chorus girl, donc on peut dire aussi que c'est. Elle est un peu déçue des studios, elle vivote.
Voilà, elle n'est pas complice objectivement du meurtre, mais elle y assiste évidemment.
Elle y assiste et elle prend la fuite, et elle est rattrapée en voiture par Peggy Caffey, par Clara Phillips.
Ouais, si tu parles, je te tue aussi.
Voilà, qui lui dit « je te tue ».
Donc elle se tait. Mais alors, le mari milliardaire, lui, il se dit « mais comment je peux sortir de cette histoire-là ? Faut que je la dénonce, quoi. »
Ouais, hein. Il finit par la dénoncer.
Dénonce sa femme.
Il finit par la dénoncer, il appelle le shérif local et il la dénonce.
Ouais. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que l'histoire n'est pas terminée. Alors, il va y avoir un procès de cette femme. Alors, on l'appelle la tigresse au marteau parce qu'elle a tellement abîmé le visage de cette malheureuse femme. Que les journalistes, parce que la presse évidemment s'empare de l'affaire et la raconte en feuilleton. Alors on l'appelle la tigresse à cause des déchirures sur le visage de sa victime. Et malgré tout, alors on raconte que peut-être à cause de la presse ou peut-être à cause de sa très grande beauté, y a des tas de journalistes qui pensent qu'elle va être acquittée.
Oui, on raconte qu'en fait elle fait du charme aux jurés masculins et qu'elle va certainement s'en sortir, enfin en tout cas échapper à la peine capitale de cette manière.
Alors c'est ce qui se passe d'ailleurs.
C'est ce qui se passe.
Elle est condamnée à une peine.
Elle est condamnée en fait à une peine qui va de 10 ans à plus d'années en fonction de son comportement ultérieur.
Ah, ça c'est possible dans la législation américaine.
Oui, oui.
Et on l'envoie à San Quentin,
célèbre
prison américaine.
Célèbre prison, oui.
Dont elle va s'évader.
Donc elle fait encore parler d'elle.
Alors qui l'évade ? Mais c'est vraiment une évasion. Il y a quelqu'un qui vient scier les barreaux de l'extérieur.
Oui. Il y a quelqu'un qui vient scier les barreaux de l'extérieur. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la presse de l'époque, on a des photos avec une indication. Justement, on voit avec une flèche, les photos ont été retravaillées. On voit donc les barreaux qui ont été sciés avec l'inscription.
Voilà. Et puis alors, elle part. Elle part vers Mexico. On la voit à Mexico City. Et puis, elle va se faire arrêter au Honduras.
Oui.
Avec sa sœur.
Oui.
Et le gars qui a scié les barreaux.
Oui, le gars qui a scié les barreaux et qui certainement assistait au procès, puisqu'on avait entendu quelqu'un lui murmurer « je viendrai te
chercher ». Mais c'est quelqu'un qui avait été fasciné par elle, c'est quelqu'un qu'elle ne connaissait pas avant
procès. Non. Alors lui prétend, quand il est arrêté donc avec Clara Phillips, qu'il l'avait épousée, que c'est sa femme.
Ouais.
Mais en fait, il ne se connaissait pas avant et c'est lui-même quelqu'un d'assez excentrique. C'est un aventurier.
Alors voilà, il fallait raconter l'histoire, elle est quand même peu banale. On va faire une pause et puis on va la décrypter ensemble parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus sur le comportement de Clara Phillips qui se fait prendre pour une victime. Et puis ceux qui évidemment vont amplifier l'histoire, c'est-à-dire les journalistes qui vont jouer un rôle assez particulier dans cette histoire-là. A tout de suite.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Et l'invité de l'heure du crime, Nausicaa Zabalos, historienne des États-Unis, de la culture américaine, et qui publie aux éditions Edith ce livre « Crimes et procès sensationnels à Los Angeles, 1922-1962 ». Au-delà du Dahlia noir, elle a expliqué pourquoi. Dahlia noir, c'est une de ces histoires qui sont déroulées à Los Angeles, qui effectivement ont fait le tour du monde. Beaucoup d'autres histoires n'ont jamais dépassé les frontières des États-Unis. Et pourtant, elle pose des tas de questions qu'on se pose aussi dans notre société, mais qu'on se posait à l'époque. Alors, on peut dire, on parlait des points communs tout à l'heure, Nausicaa Zabalos, entre toutes ces histoires. C'est vrai qu'on leur donnerait le bon Dieu sans confession, mais tous ces criminels, hommes et femmes confondus, ont tenté de manipuler l'opinion et de manipuler les jurés, par exemple. Clara Phillips, c'est son cas.
Oui, oui, Clara Phillips a vraiment essayé de charmer les jurés, mais il faut dire aussi peut-être que son comportement a été amplifié par la presse de l'époque, qui publiait des comptes rendus avec des photos incroyables de l'intérieur du tribunal.
En rajoutant quelquefois encore.
En tordant
un peu les faits, quoi, quand même. Et les gens, donc, et les journaux, en fait, les groupes de presse se faisaient un peu la guerre.
Oui, ils essayaient d'augmenter leur tirage en jouant sur le sensationnalisme des affaires. Et puis, faut dire aussi que parfois, les journalistes étaient les premiers arrivés.
Avant les flics.
Avant les flics.
Alors, notamment, la copine, l'ancienne Chorus Girl, elle va être interviewée par la presse, elle va donner son avis.
Oui, elle va être interviewée de plusieurs fois. Et puis, il y a pas mal de portraits d'elle qui sont dans le bouquin. Et on peut la voir avec des chapeaux vraiment incroyables.
Et on peut dire aussi que, d'une certaine manière, Clara Phillips a réussi à manipuler le jury, puisqu'elle a échappé à la peine de mort. Elle a été accusée d'homicide, mais sans préméditation, alors qu'elle avait quand même acheté le marteau et programmé ce meurtre.
Oui, c'est vrai, il y avait des témoins qui l'avaient vu acheter le marteau. Il y a le témoin direct, c'est Peggy Café. Il y a le mari qui a aidé à nettoyer la voiture et à la faire échapper. Mais on a dit aussi que c'était un crime passionnel et qu'à la rigueur, on pouvait le comprendre puisque son mari avait tellement été infidèle que la pauvre, elle avait craqué.
C'est ça, c'était une femme désespérée par les trahisons de son mari et qui il fallait excuser. Elle a fait des tentatives de suicide aussi, je crois, en prison.
Oui.
Et puis elle était... Alors, il y avait du monde, du beau monde, si j'ose dire, dans sa prison.
Oui, il y avait du beau monde. Alors, elle était incarcérée. Il y avait Madeleine Obernstein, qui est également une femme qui a échappé à la justice. Bon, là, elle est en prison pendant le séjour de Clara Phillips, mais elle est relâchée assez rapidement et reconnue non coupable, alors que pourtant, elle était aussi inculpée. Enfin, on pensait qu'elle avait fait assassiner son amoureux de l'époque. Donc, il y avait elle, il y avait Louise Pitt aussi, qui après va être surnommée la Veuve Noire. Et il y a un peu une rivalité entre toutes ces femmes meurtrières. Et Clara Phillips, un jour, elle se suicide parce que elle estime qu'elle est victime d'une cabale dans la prison, qu'elle n'est plus vraiment la star des criminels de la prison.
Donc, c'est une histoire qui nous raconte déjà quelque chose. L'histoire qu'on va raconter maintenant est épouvantable, il faut le dire. Le criminel dont on va parler est certainement l'un des plus machiavéliques de l'histoire criminelle américaine. Le crime, lui, est un des plus sordides des annales criminelles américaines. La ville de Los Angeles a été en état de choc
pendant plusieurs semaines.
La police a mené une chasse à l'homme. Les radios se sont fait concurrence également, et les télévisions pour demander aux gens, c'est une sorte de téléthon, donner de l'argent pour que on offre une prime pour arrêter l'assassin. Et il faut dire que évidemment l'horreur du crime était quasiment une nouveauté aux États-Unis, quoique l'auteur en question dira qu'il a voulu imiter un crime effectué quelque temps plus tôt par deux jeunes universitaires.
Oui.
Et lui, alors, c'est qui ? Et lui, il s'appelle, rappelez-moi son nom complet.
C'est William Edward Hickman.
Voilà. Et il a 23 ans.
Oui.
C'est un type brillant.
Brillant, qui adore lire de la philosophie, qui faisait partie de plusieurs clubs au lycée, qui est en plus bel homme.
Ouais. Et ce garçon va un jour se présenter dans une école. Il va demander à parler à la directrice. Et il va dire, je viens chercher la petite Marion Parker. Marion Parker, elle a 12 ans. C'est la fille de Perry Parker, qui est un gros banquier à Los Angeles. Et il dit, son papa vient d'avoir un accident. Il voudrait voir sa petite fille tout de suite. Et il connaît la famille, puisqu'il dit, elle a une sœur, une petite sœur, qui est déjà près de son père. Et son père m'a demandé comme un service de l'amener. D'ailleurs, si vous voulez vérifier, et il donne le numéro de la banque, etc. Et la directrice de l'école ne va pas vérifier, il va partir. Et en fait, c'était un enlèvement.
Et oui, c'était un enlèvement et qui va se terminer vraiment de manière tragique, parce que finalement, c'est pas l'argent qui intéresse Hickman.
Alors, on fait une pause et on vous raconte l'histoire intégralement, dans un instant, illustrée par une chanson.
L'heure du crime sur RTL.
Little Marion Parker left her home one day. Headed for the schoolhouse so very far away.
Alors, cette ballade country date de 1969, enregistrement 1969, une chanson de Glenn Orlin qui parle de l'assassinat de la petite Marion Parker. Ça raconte exactement l'histoire.
Oui, oui, ça raconte exactement l'histoire, comment elle s'est fait kidnapper, comment elle a été tuée, démembrée et comment on l'a retrouvée. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est donc une ballade qui date de la fin des années 60, presque 40 ans après le crime. Donc ça veut dire que 40 ans après, on continue à en parler et ça restait dans les mémoires.
Voilà, et ça a marqué évidemment la mémoire collective américaine, au-delà même de la ville de Los Angeles. Alors, le 15 décembre 1927, donc, ce type, là, ce jeune homme de 23 ans enlève cet enfant, puis alors il écrit au père, c'est une vengeance en fait.
Oui, c'est une vengeance, alors on ne sait pas trop, il y a d'autres raisons aussi, on estime qu'il veut devenir aussi célèbre que Leopold et Loeb, donc deux criminels qui avaient enlevé à Chicago un petit garçon de 13 ans et qu'il avait également assassiné de manière cruelle, mais on pense aussi que c'est pour se venger de Perry Parker, donc le banquier, le papa de Marion, parce qu'il a dénoncé William Edward Hickman qui faisait des chèques faux.
Il s'était fait donc virer, quoi.
Oui, oui.
Il était un employé du banquier,
oui.
Parker.
Oui, oui.
Et il s'était dit, je vais me venger et je vais tuer ta fille.
Voilà.
De la façon la plus horrible. Alors ça, on parlera après des débats autour de l'histoire. On peut quand même se demander s'il n'était pas simplement fou allié et psychopathe totalement pervers.
Oui, oui.
Parce que il va jouer à faire du mal au père.
Oui, il joue à faire du mal. Mais alors, par contre, il y a plusieurs théories sur la folie présumée d'Hickman, parce que quand il se fait attraper, donc il arrive à fuir Los Angeles, il se fait attraper donc, dans l'Oregon, dans le nord des États-Unis, et dans la cellule de l'Oregon, il dit comment on fait pour essayer de faire semblant d'être fou.
Ouais, ça, donc, le gardien va en parler à la justice, bien sûr. Mais alors, revenons en arrière. Cette gamine est enlevée. Le père reçoit une série de lettres.
Oui, de lettres, de télégrammes,
terrible,
d'appels téléphoniques.
Voilà, il décrit ce qu'il fait à sa fille. Il dit, si tu veux la revoir vivante, il me faut 1500 dollars. Alors,
oui,
on est en 1927, c'est une somme.
Oui, hein. Oui, oui.
1500 dollars en petite coupure.
Oui.
Et puis, il organise la remise de la rançon. Alors, au début, le père, évidemment, prévient la police.
Bien sûr, oui, oui.
Et le type est prodigieusement intelligent parce qu'il précède toujours, il a toujours un coup d'avance sur la police.
Il a toujours un coup d'avance, vraiment, il doit surveiller la maison ou je ne sais pas comment il fait.
Il ne se présente pas pour les remises de rançon.
Il ne se présente pas au premier rendez-vous.
Voilà. Et à un moment, une ultime lettre où il dit au père, et vous publiez d'ailleurs le fac-similé et la traduction de ces lettres, où il dit au père, voilà, c'est vraiment ta dernière chance.
Oui,
demain,
oui.
C'est le dernier jour de la vie de ta fille.
Demain, c'est le dernier jour.
Ou alors, tu ne préviens pas la police. Tu me donnes les 1500 dollars. Il explique qu'il faut que le banquier vienne avec sa voiture.
Oui.
Lui sera dans une autre voiture en face. On ouvrira, les conducteurs ouvriront leurs portières, enfin leurs vitres.
Oui.
Et le père pourra voir sa fille dans la voiture.
Et
c'est exactement ce qui se passe.
C'est exactement ce qui se passe. Alors donc Perry Parker est alors au rendez-vous. Il a les petites coupures dans un sac. Il s'approche de la voiture d'Hickman. Alors bon, il a vraiment le cœur qui bat très vite puisqu'il voit sa fille qui a l'air d'être bien, de le regarder.
Qui regarde fixement devant elle.
Voilà, qui regarde fixement devant elle. Et donc il lance le sac à travers la vitre. Hickman part à toute allure. Et ensuite,
il jette
Marion un peu plus loin.
Une partie du corps de Marion, parce qu'en fait, elle était morte, il l'avait tuée avant.
Voilà, il l'avait tuée avant, il avait cousu ses paupières avec également des cordes de piano pour faire semblant, pour lui donner l'impression qu'elle était encore vivante, qu'elle regardait.
Ouais.
Et en plus, il ne jette que le torse et la tête.
Voilà, il a éviscéré cette gamine, enfin, c'est quelque chose d'absolument c'est épouvantable.
Oui,
quand on dit que la ville était en état de choc le lendemain,
on comprend
la chasse à l'homme, on comprend les appels à la radio pour.
Oui,
on réunit près de 100 000 dollars de l'époque.
Monde,
100 000 dollars.
On propose vraiment d'offrir de l'argent pour la capture d'Hickman. Alors, ça, c'est assez drôle, assez drôle malgré l'horreur. Il y a par exemple une dame qui vend son canari, il y a un petit garçon qui apporte ses économies, quelques centimes aux radios, parce que ce sont les radios qui relaient l'appel d'offres.
Voilà.
Enfin,
alors les policiers évidemment qui mènent la traque sont également transformés un peu en héros par la presse populaire. Et puis en fait Hickman fuit, il va être pris dans l'Oregon, je crois.
Oui. Alors il n'est pas pris à Los Angeles, il est pris dans l'Oregon puisque il y a des coupures, enfin il y a de l'argent qui refait surface là-bas.
Ouais.
Et puis il y avait également donc le papa de Marion qui avait mémorisé le numéro de la plaque.
Ouais. Et
par contre
solution, oui. Trouver assez facilement la voiture, oui. Reconstituer que cette voiture a servi un hold-up.
Oui, un hold-up avant l'assassinat de Marion.
Voilà. Et il y a déjà eu un autre assassinat. Enfin, ça, c'est, oui. Je renvoie tout le monde à votre livre pour parce que c'est déjà
c'est
assez complexe
très
comme
dense.
Ça.
Oui.
Mais alors, ce qui est terrible, c'est le procès. Parce que l'Amérique va être. Alors, il ne faut pas exagérer, il ne faut pas dire qu'elle est divisée en deux camps. Il y a la majorité des gens qui disent ce type est un salopard, il faut le tuer, il faut qu'il soit pendu, enfin bon. Il y a une petite minorité, d'intello qui savent qu'il lit Nietzsche, qu'il est très brillant élève, qu'il est peut-être surdoué, et qui se disent, mais finalement, et notamment une femme écrivain.
Oui, oui. Donc une essayiste et une philosophe, Ayn Rand, qui va s'inspirer donc d'Hickman pour créer un personnage dans un livre qui sera publié donc après sa mort à elle, donc The Little Street. Et elle dit qu'Hickman, en fait, c'est un surhomme, c'est vraiment un génie, et qu'il est victime de la médiocrité des Américains moyens.
Voilà, et bon, que c'est l'expression même du surhomme imaginé par Nietzsche.
Voilà.
Alors, vous parlez longuement, hein, très longuement de cette histoire que vous décryptez, très longuement, à cause de tous ces éléments-là, et parce qu'il y a l'horreur du geste,
oui.
Il y a l'énigme psychiatrique,
voilà.
Il faut en parler un peu,
oui, faut en
parce
parler
que
un
les
peu,
psychiatres,
oui.
Il y a une bataille d'experts incroyable.
Oui, oui. Bah, en fait, il y a donc une bataille d'experts et puis on n'arrive pas vraiment à s'accorder. Enfin, bon, l'avocat d'Hickman va essayer de plaider la folie, il va même faire venir la mère d'Hickman, Eva Hickman, qui a été internée dans l'Arkansas, qui est la région, oui. D'où est originaire Hickman.
Alors on va supposer que peut-être la folie est héréditaire.
Voilà,
que,
exactement.
Donc il est évidemment, c'est bien sûr lui qui a tué, mais dans un état de folie,
voilà,
qui devrait le faire échapper à une sanction judiciaire.
Oui, oui.
Et puis en fait, bon non, la cour n'y croit pas, elle ne veut pas la croire.
La cour n'y croit pas, et puis en plus il y a aussi des chroniqueurs judiciaires comme Edward Rice Burroughs, qui est l'inventeur de Tarzan, enfin, par ailleurs c'est aussi un écrivain,
ouais.
Et qui lui tourne en dérision le débat des aliénistes qui n'y croient pas une seconde. Voilà.
Ouais, en fait, et beaucoup d'aliénistes aussi disent il est parfait, c'est un psychopathe,
oui.
Il est inaccessible à l'émotion,
voilà.
Humaine.
Ah, oui.
On dit que c'est le prince je ne sais plus, il y a une expression qu'a employée un grand psychiatre de l'époque. Le prince des idiots.
Oui, on parle de l'idiotie morale.
Voilà.
Oui. Donc on explique que d'un point de vue intellectuel, il est vraiment supérieur, mais qu'il est incapable, il n'a pas du tout la même maturité affective.
Voilà. Et pour faire référence à ceux dont il dit qu'il a imité le crime, là, les deux dont vous avez parlé, l'un des deux est un surdoué, il a 210 de QI.
Oui, oui, oui.
Et ça aussi, ça a frappé un certain nombre de gens en disant, mais comment peut-on à la fois être aussi intelligent et aussi cruel,
oui.
Et aussi criminel, et c'est de là que vient l'expression dont on parlait à l'instant, l'idiotie morale.
Oui.
On peut être très intelligent et atteindre des sommets dans l'horreur.
Dans l'horreur.
Voilà. On va vous raconter une autre histoire, elle n'est pas plus grave, mais elle n'est pas moins grave. Et c'est l'histoire d'une femme qui aimait tellement son fils qu'elle n'a pas pu s'empêcher d'éliminer sa belle-fille.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Et nous sommes en compagnie de Nausicaa Zabalos, qui est professeure de culture américaine et qui publie aux éditions Edith « Crimes et procès sensationnels à Los Angeles », des histoires épouvantables qui sont déroulées sur 40 ans à peu près, quoi, 1922-1962. Hein, chacune des histoires que vous racontez éclaire d'une certaine manière un débat. Alors, on n'a pas parlé tout à l'heure, mais il y a eu le débat sur la peine de mort au moment du procès de ce type épouvantable qui avait enlevé cette petite fille et qu'il avait coupé en morceaux. Il a fini par être pendu. Hein,
oui, il a fini par être pendu.
Disons-le quand même. Vous racontez aussi, il y a des histoires extraordinaires qu'on ne va pas avoir le temps de raconter là. J'envoie tout le monde à votre livre sur Aimé Semple. Alors ça, c'est extraordinaire. C'est une femme prédicateur.
Oui.
C'est un peu l'ancêtre des télé-évangélistes.
Aujourd'hui, oui, c'est vrai. Elle utilise tous les moyens médiatiques de son époque pour faire parler d'elle.
Voilà, elle va fasciner d'ailleurs Anthony Quinn. Hein,
oui, c'est vrai qu'Anthony Quinn dira d'elle qu'elle était pour lui beaucoup plus belle que Catherine Hepburn, Anna Magnani et d'autres femmes.
Voilà, et elle est accusée de meurtre.
Elle n'est pas accusée de meurtre, mais d'avoir mis en scène son kidnapping. Voilà, donc c'est encore ça. Plus fort. Elle se fait passer pour une femme qui a été kidnappée par deux affreux truands, et en fait elle va réapparaître dans le désert alors que peut-être pas tout raconter.
Oui, c'est pas biblique du tout, en tout cas, elle a tout inventé. Et elle a un bras de fer avec un procureur qui va se retrouver, lui, en tôle, avec les gens qui contribuent à mettre en tôle.
Oui, elle a tellement d'influence dans le milieu judiciaire et puis le milieu d'Hollywood que grâce à la presse, alors elle fait également chanter William Hurst, donc un grand patron de presse.
De presse, bien sûr. Ouais.
Et finalement, c'est le procureur qui se retrouve en prison à sa place. Voilà. Et qui, lui, était vraiment, donc, avait envoyé. Plus de 2000 personnes en prison, dont Norman Selby, Kid McCoy, donc un boxeur. Et quand il va se retrouver à Saint-Quentin, il va changer d'avis sur la peine de mort. Et on devine un peu pourquoi.
Alors, vous parlez d'un couple, un pasteur lubrique, une histoire sexuelle incroyable qui a aussi divisé l'Amérique. Mais là, c'est parce que, il ne fallait pas parler de ça, quoi, hein, et surtout un homme d'église. Et puis, alors, une histoire, je vais raconter le début. Et vous allez nous en dire un peu plus. Nous sommes le 21 décembre 1958. Olga Duncan, qui est une jeune infirmière d'origine canadienne, qui a 30 ans, est retrouvée morte dans une tombe. Très vite, l'enquête démontre qu'elle est mariée depuis 6 mois avec un monsieur qui s'appelle Frank Duncan. Elle était enceinte de 5 mois. Et très vite, les soupçons des enquêteurs vont aller vers la belle-mère.
Oui. Donc les soupçons vont se porter sur Elizabeth Mad Duncan, qui est la belle-mère d'Olga.
La mère de Frank.
Donc. Voilà, et il faut dire qu'en fait, Olga a épousé Frank Duncan, qui est avocat, qui va également défendre sa maman lors du procès, après avoir rencontré Frank à l'hôpital où Elizabeth Mad Duncan se faisait soigner après avoir tenté de se suicider.
Ouais. Alors c'est une femme qui a eu une vie agitée, mais ça on va le découvrir. Oui. Elle a eu 11 maris, ou 11 compagnons.
11 compagnons.
Souvent elle s'est mariée, voilà, elle les a quittés, elle n'a jamais divorcé, elle en a épousé d'autres.
Oui, alors le procès est vraiment rocambolesque parce qu'on découvre que parfois, elle n'avait pas pris la peine de faire annuler un mariage ou de divorcer, voilà, et elle se remariait. Ouais. Et la grand-mère, enfin pas vraiment grand-mère puisque le bébé d'Olga est mort avec sa maman, on ne pouvait pas lui donner le bon Dieu sans confession.
Alors justement, parce que on aurait pu lui donner le bon Dieu sans confession, parce que c'est l'amour d'une mère, un amour extraordinaire. Est-ce que c'était un amour incestueux ?
On n'a jamais trop su, mais c'est vrai que la presse de l'époque a insisté là-dessus, parce que ce qu'on apprend lors du procès, c'est que peu de temps, Elizabeth Mad Duncan avait tenté de se suicider pour faire pression sur son fils, parce
qu'elle
voulait,
qu'il se marie pas.
Voilà, elle voulait toujours qu'il reste avec elle, s'occupe d'elle, qu'il vive avec elle. Ouais. Et quand elle apprend qu'il s'est marié en plus avec son infirmière, alors là, c'en est trop, et elle veut la faire assassiner.
Alors comment elle s'y prend ?
Comment elle s'y prend ? Elle engage.
Touche pas, Liva. Pas la main à la pâte. Hein.
Elle engage deux hommes de main, deux latinos, donc Luis Moya et Augustine Baldonado. Et ces deux hommes-là, ils
font... 6 000 $, hein ?
Ouais. Oh ouais, elle les paye bien. Et puis ces deux hommes-là, ils trempent déjà dans des affaires pas claires. Et finalement, on remonte assez rapidement vers eux. Et quand ils se retrouvent en prison, ils dénoncent Elizabeth Mad Duncan.
Voilà. Alors, cette histoire, vous la racontez, j'aime bien, il nous reste une minute là pour la décrypter, parce que c'est aussi, il y a toujours une raison quand vous racontez une histoire. Celle-là, qu'est-ce qu'elle met en lumière particulièrement ?
Celle-là, elle met en lumière toujours les débats des experts psychiatres, parce que c'est quand même une femme qui, à mon avis, devait avoir de graves problèmes, puisqu'elle s'est mariée 11 fois.
Elle a été internée d'ailleurs dans l'hôpital dont vous parliez.
Il y a l'expert psychiatre du Camarillo Mental Hospital qui vient la voir, mais les avis toujours sont divisés. Soit elle sait ce qu'elle a fait, donc elle peut être reconnue responsable pénalement, soit elle était folle. Et donc il y a tout un débat, c'est vraiment une des premières histoires où on parle de la peine de mort. Donc le plaidoyer de l'avocat d'Elizabeth Mad Duncan, ça sera sur est-ce que c'est chrétien, puisque l'Amérique est quand même chrétienne,
de tuer
une personne aussi, d'un certain âge.
Et elle va être la dernière.
Elle va être la dernière femme à encourir la peine de mort exécutée en Californie.
Chambre à gaz. Je ne me souviens plus.
Elle est non chez Electric.
Chez Electric. Jean Magin, c'est d'une autre dont vous parlez. Oui. Mais voilà. Donc, une histoire qui a ravivé le grand débat sur la peine de mort continue dans les États américains.
Si je peux me permettre une petite anecdote, en fait, on trouve dans sa cellule, elle lisait un roman qui était Mams, Maman est le nom pour le meurtre.
Oui, c'était une histoire de tueur dont le nom de code pour communiquer avec la police, il signait Maman.
Maman, voilà.
Je vous remercie beaucoup, Nausicaa Zabalos, et bravo vraiment pour votre travail qui est remarquable. Je renvoie tout le monde à ce livre, Crime et procès sensationnel à Los Angeles, 1922-1962 aux éditions Edith. Merci beaucoup, au revoir. Et
merci à vous.
Dans un instant, il faut que je dise bonjour quand même à Flavie Flamand.